à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie, ravi de vous retrouver pour Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce vendredi 13 juillet 2018. Au Cameroun, Paul Biya annonce sa candidature à l'élection présidentielle.
Au vu des actes que nous voyons qu'il pose pour le pays, c'est à nous les jeunes de prendre la décision.
Je pense qu'il peut, en ce moment précis où nous traversons quelques troubles, être le seul à même de faire revenir l'ordre.
L'ONU s'inquiète de violences barbares en Ituri, en RD Congo. Au Sénégal, l'opposition défie le préfet de Dakar et maintient sa marche anti-gouvernementale. Le président érythréen se rend en Éthiopie ce samedi. À l'international, le président américain loue les relations de Washington avec Londres au lendemain d'une attaque contre la première ministre britannique sur le Brexit. Donald Trump et son épouse Melania, qui ont par ailleurs été accueillis ce vendredi par la reine Elisabeth II au château de Windsor. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Au Cameroun, le chef de l'État Paul Biya a annoncé ce vendredi sa candidature à un septième mandat au pouvoir depuis 1982. Le président de 85 ans affirme que sa candidature était une réponse à des appels incessants de ses compatriotes, tant du pays que de la diaspora. La nouvelle intervient au lendemain de l'attaque du convoi de son ministre de la Défense en zone anglophone, déstabilisée par des séparatistes armés. Les détails avec Salwa Jaafari.
C'est un septième mandat que Paul Biya compte briguer le 7 octobre et c'est sur Twitter que le président de 85 ans a annoncé la nouvelle. Chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscients des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus stable, plus uni et prospère, j'accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. La présidentielle prévue le 7 octobre va se tenir dans un contexte de violence quotidienne dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest qui risquent de perturber le scrutin. L'annonce du président Biya a été faite au lendemain de l'attaque du convoi de son ministre de la Défense, Betty Assomo, par des séparatistes anglophones armés dans le sud-ouest. Par ailleurs, le Cameroun continue de faire face aux incursions des militants islamistes de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Si Biya remporte ce scrutin, il pourrait passer plus de 43 ans à la tête du Cameroun.
Nous reviendrons sur le Cameroun tout à l'heure dans le segment magazine. L'ONU se dit inquiète de ce qu'elle qualifie de violence barbare en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour elle, le retour des quelques 150 000 personnes ayant fui cette province en raison des violences intercommunautaires se fait dans des conditions difficiles. Le HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, indique avoir entendu de nombreux et déchirants témoignages sur des attaques menées par des groupes armés contre des civils avec des fusils, des arcs ou des machettes, avec pour résultat des villages entiers rasés, des fermes et des magasins pillés ou endommagés. Une équipe de l'ONU a récemment pu accéder à la province de l'Ituri après des mois de conflit entre les groupes ethniques Emma et Lendu qui se disputent depuis longtemps les terres dans cette région. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a lancé ce vendredi un nouvel appel à l'arrêt des violences en République centrafricaine, exprimant sa profonde préoccupation face aux activités persistantes de groupes armés à Bangui, la capitale, et dans le pays. La plus haute instance de l'ONU menace de prendre des sanctions individuelles contre les contrevenants au processus de paix et réaffirme son soutien au président Faustin Archange Touadéra, tout en réclamant aux autorités, à l'Union africaine et aux États de la région d'en faire davantage pour la réconciliation nationale. Au Tchad, début du recensement physique des effectifs de la police pour constater ceux qui ne viennent pas au travail et maîtriser la masse salariale. C'est ce qu'affirme le porte-parole de la police. D'après Paul Manga, il s'agit d'un contrôle de routine qu'initie chaque année l'inspection générale d'État, confrontée à une profonde crise économique depuis la chute du cours du baril en 2014. Djamena doit réduire la masse salariale à la charge de l'État dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, le FMI. Au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade et ses alliés du Front patriotique pour la défense de la République organisent depuis cet après-midi une marche à Dakar. C'est pour dénoncer la gouvernance du président Macky Sall. Compte rendu, Abdourahmane Dia.
L'ancien parti au pouvoir réclame aussi que le gouvernement sénégalais accepte le retour de Karim Wad au Sénégal et la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall, tous deux condamnés dans des affaires distinctes de détournement de fonds publics ou d'escroquerie. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wad vit au Qatar depuis qu'il a été gracié par le chef de l'État Macky Sall, l'opposition accusant le pouvoir de l'empêcher de revenir au Sénégal. Quant au maire de la capitale, il purge une peine de 5 ans d'emprisonnement. Son procès en appel reprend la semaine prochaine. L'opposition mobilise ses troupes à un peu plus de 6 mois de la présidentielle et accuse le gouvernement d'instrumentaliser la justice pour écarter les principaux adversaires de Macky Sall. Le pouvoir, lui, dégage en touche ces accusations. C'est la première grande manifestation de l'opposition autorisée par le préfet de Dakar ces derniers mois.
En Côte d'Ivoire, un imam d'Abidjan a été inculpé pour des faits de terrorisme, d'attentat à la sûreté et d'incitation à la révolte. L'imam Aguib Touré est incarcéré depuis une semaine à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Son avocat affirme que ces inculpations l'ont profondément meurtri et qu'il répugne les actes de terrorisme. Le président érythréen Isaias Afewerki se rendra en Éthiopie demain, samedi, dans le cadre du rapprochement historique entre les deux anciens frères ennemis de la Corne de l'Afrique. Les précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Cette visite vise à renforcer la démarche de paix et de coopération entreprise par les leaders éthiopiens et érythréens. C'est le président Isaias Afewerki qui conduira lui-même la délégation qui se rendra demain à Addis Abeba, tweete son ministre de l'Information Yemane Gebremeskel. Selon Fana, la radio-télévision proche du pouvoir éthiopien, la visite de M. Isaias durera 3 jours. À cette occasion, le président érythréen procédera à la réouverture de l'ambassade de son pays à Addis Abeba et visitera un parc industriel. Sur son compte Twitter, Fitsum Arega, chef de cabinet du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, a remercié le président érythréen d'honorer son pays à travers cette visite. Messieurs Isaias et Abiy Ahmed fait lundi à Asmara 2 décennies d'état de guerre entre leurs pays en signant une déclaration conjointe de paix et de coopération. Depuis lors, les communications téléphoniques ont été rétablies entre les deux pays. Les liaisons aériennes doivent, elles, reprendre mercredi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain a déclaré aujourd'hui que la relation entre les États-Unis et la Grande-Bretagne était la plus spéciale qui soit. Donald Trump revient ainsi sur ses propos de la veille contre la première ministre britannique Theresa May. Claire Morin-Gibourg.
Donald Trump a été reçu par la reine Elizabeth au 2e jour de sa visite, alors que des dizaines de milliers de personnes manifestaient contre sa présence au Royaume-Uni. Le président américain a opté pour un ton plus conciliant sur la façon dont il voyait la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Au cours d'une conférence de presse, il a assuré n'avoir jamais mis en cause la stratégie de Madame May sur le Brexit. Le président Trump a souligné avoir fait des suggestions sur la façon d'aborder ce dossier, laissant entendre qu'elle n'avait pas été suivie. Affichant sa volonté de parvenir à un accord d'échange bilatéral avec Londres, Donald Trump s'est voulu optimiste. Nous voulons faire des échanges avec le Royaume-Uni, ils veulent en faire avec nous. Theresa May a confirmé ses propos. Lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, nous chercherons à établir un accord de libre-échange Royaume-Uni-États-Unis ambitieux, a-t-elle renchéri.
Également dans l'actualité, 12 agents des services de renseignement russes ont été inculpés pour avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate avant l'élection présidentielle américaine de 2016, selon le ministère américain de la Justice. Ces inculpations ont été demandées par le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur une ingérence russe dans le scrutin de novembre 2016, remporté par le candidat républicain Donald Trump. Des Irakiens ont de nouveau manifesté ce vendredi à Bassora, au 6e jour d'une contestation sociale qui a poussé le premier ministre Haider al-Abadi à se rendre dans la grande ville du sud de ce pays minée par la corruption et des années de violence. Les protestations contre le chômage et la vétusté des services publics, principalement l'électricité, ont été exacerbées par la mort de manifestants dimanche dernier au premier jour des manifestations dans ce chef-lieu de la province du même nom, riche en pétrole. Et puis, Au Pakistan, l'ex-premier ministre Nawaz Sharif, condamné en son absence la semaine dernière à 10 ans de prison pour corruption, est attendu ce vendredi au pays où il pourrait être mis en prison. La scène politique est de plus en plus tendue à 2 semaines d'élections législatives à l'issue incertaine. Ce retour intervient alors que 2 attentats meurtriers ont visé ce même vendredi des réunions électorales dans l'ouest du pays, faisant près de 90 morts au total. Ils n'ont pas été revendiqués dans l'immédiat. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Il est l'heure de la Minute Éco avec Claire Morin-Gébourg.
Les start-up africaines se portent bien. Sur les 6 premiers mois de 2018, les jeunes pousses du continent ont levé plus de 168 millions de dollars, soit un peu plus que ce qu'elles avaient levé pour l'ensemble de l'année 2017. Ces chiffres confirment la bonne santé de l'écosystème d'innovation du continent et son potentiel de croissance, même si, pour le moment, les fondations et les bailleurs de fonds restent les principaux contributeurs. Une délégation des 8 principaux bailleurs internationaux de la Tunisie a apporté son soutien au gouvernement, l'appelant à poursuivre les réformes dans l'intérêt des citoyens. Au moment même où des critiques s'élèvent contre certaines mesures d'austérité, le Premier ministre Youssef Chaeb peine à faire consensus, même dans son propre camp, autour d'un programme de réforme touchant notamment les caisses sociales et les nombreuses entreprises publiques. Directeur général de Crédit Suisse, le franco-ivoirien Tidjane Thiam s'est vu décerner le titre de banquier de l'année à Londres lors de la cérémonie des Euromoney Awards. Un prix qui récompense la restructuration de la deuxième plus grande banque suisse et son retour à la rentabilité. Le Crédit Suisse a également été élu meilleure banque d'investissement dans les marchés émergents.
Bonsoir à tous, J-2 avant la grande finale de la Coupe du Monde à Moscou. Françaises et Croates se préparent pour ce match prévu dimanche à 15h, temps universel. Les Bleus veulent une deuxième étoile sur leur maillot, les Croates rêvent d'en décrocher une première. Pour les Français, il y a aussi une revanche à prendre sur eux-mêmes après la défaite en finale de l'Euro à domicile face au Portugal, c'était il y a 2 ans. On écoute Blaise Matuidi, le milieu de terrain de l'équipe de France, en conférence de presse.
Il y a 90 minutes, voire 120, il va falloir tout donner. Voilà, je pense que c'est le match de notre vie. Honnêtement, on a tous, comme je l'ai dit, rêvé de jouer des matchs comme ça et à nous de mettre tout en œuvre justement pour réaliser ce rêve qui serait de soulever cette Coupe du Monde. On s'attend à un match très difficile et je pense pas que les matchs qu'ils ont fait en allant en prolongation, voire au pénalty, seront un handicap pour eux.
Blaise Matuidi, le milieu de terrain de l'équipe de France. Et on rappelle que si Deschamps remporte à nouveau la Coupe du Monde en tant que coach, il deviendra le 3e homme à réussir ce genre de doublé joueur-sélectionneur après le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer. Tout de suite, les enjeux de ce match dans le coup de sifflet de Jules Valentin-Gouy.
D'un côté se trouve la France, un ancien champion du monde à la recherche d'une seconde étoile pour entrer définitivement dans la carte fermé des équipes aux victoires multiples en Coupe du Monde, à côté de l'Uruguay, l'Italie, le Brésil, l'Allemagne et l'Argentine. De l'autre côté, il y a la Croatie, le nouveau venu, longtemps placé, même sous un autre nom, jamais sacré, et qui tient à bousculer l'establishment comme l'Angleterre en 1966, l'Argentine de 1978, la France de 1998 et l'Espagne de 2010. Elle piaffe d'impatience au pied de l'Olympe. Dans cet ultime rapport de force, la France, représentante de la nomenclatura du football mondial, est forcément favorite de cette compétition. Au niveau du jeu, les Croates ont aussi de sérieux atouts à opposer aux favoris français. D'abord, leurs techniques individuelles ou aériennes, ce sont d'excellentes manières de ballon. Mais en plus, leurs qualités physiques sont exceptionnelles. La région fut un réservoir de gladiateurs sous l'Empire romain et les Anglais, adeptes de la culture du rugby, l'ont bien appris à leurs dépens en demi-finale. Alors l'équipe de France et ses guerriers africains qui ont progressivement pris le dessus sur leurs adversaires dans ce domaine doivent intégrer cette particularité croate afin que la catastrophe de l'Euro 2016 ne se reproduise pas. À dimanche.
Merci Jules. Sachez enfin que le Mondial 2022 organisé au Qatar se déroulera du 21 novembre au 18 décembre cette année-là. Annonce de Gianni Infantino, le président de la FIFA, ce vendredi. Un tel décalage est justifié par les températures caniculaires atteintes durant tout l'été dans l'Émirat. Il fait par exemple aujourd'hui 44 degrés à Doha.
Le journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pineau. Merci bien.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Comme promis, retour au Cameroun, le président Paul Biya, 85 ans, est donc candidat à un septième mandat à la tête du Cameroun qu'il contrôle presque seul, pays dont l'écrasante majorité de la population a moins de 25 ans et où les régions anglophones sont en proie à un conflit armé. Les dernières statistiques disponibles de 2014 montrent que 75% de la population camerounaise a moins de 25 ans et n'a donc connu que Paul Biya comme président, fonction qu'il occupe depuis 1982. Ses opposants, dont deux choix aussi, candidat déjà déclaré du Social Democratic Front, l'accusent d'être responsable du chaos dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'opinion publique est loin d'être unanime au sujet de la déclaration de candidature du président Biya. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Les jeunes Camerounais sont partagés après la déclaration de candidature du président Paul Biya, quoique ce dernier ait placé sa candidature sous le signe de la stabilité, la prospérité et l'unité au Cameroun.
Je vais laisser les choses et donner une chance à d'autres personnes pour que cette personne vienne montrer de quoi ils sont capables.
Au vu des actes que nous voyons qu'ils posent pour le pays, c'est à nous les jeunes de prendre leurs décisions.
Je pense qu'il peut, en ce moment précis où nous traversons quelques troubles, être le seul à même de faire revenir l'ordre.
À 85 ans, Paul Biya sera le plus âgé des prétendants au fauteuil présidentiel en octobre prochain. Une posture qui suscite également des avis contradictoires au sein de l'opinion publique à Yaoundé.
Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où actuellement les choses ne se sont pas stabilisées, on n'attend pas plus que sa présence. À son âge, les contraintes qu'un tel déplacement à partir de Yaoundé ne puisse lui permettre de faire ce déplacement en toute quiétude.
Vous savez, à cet âge, il y a certaines réflexions qu'on ne peut plus faire. Beaucoup de gens disent qu'ils ne travaillent pas bien.
Non, 85 ans, c'est l'âge majeur pour traiter les gens. Si on laisse les jeunes gérer le Cameroun, que deviendra le Cameroun demain? La vie est pour les vieux, pour les responsables.
Seuls les militants du RDPC, le parti au pouvoir, baignent dans l'euphorie totale. Paul Biya est l'homme de la situation. Professeur Elvis Ngolengole, coordonnateur de l'Académie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qui a investi Paul Biya.
Cette candidature représente l'espoir pour les Camerounais, pour le Cameroun. C'est une candidature populaire, c'est une candidature républicaine. Son souhait, c'est que s'il est réélu, ensemble avec tous les Camerounais, ils vont faire de telle sorte que le Cameroun reste toujours stable et reste toujours prospère.
Le 19 juillet prochain, les Camerounais seront fixés sur le nombre de challengers du président actuel à avoir déposé leur candidature à Election Cameroun, l'organe en charge d'organiser les scrutins au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jolouta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République démocratique du Congo, le parti de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, acquitté par la Cour pénale internationale, la CPI, a ouvert hier les travaux de son congrès à Kinshasa, à 5 mois de la présidentielle du 23 décembre. Jean-Pierre Bemba est notre candidat naturel, ont scandé les militants du MLC, le Mouvement de Libération du Congo. Idriss Fall a fait le point avec Thierry Kambundi, rédacteur en chef de Top Congo FM, partenaire de VOA Afrique à Kinshasa.
comme vous l'avez dit et comme l'ont répété militants et autres cadres du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo devrait être plébiscité candidat de ce parti à la prochaine présidentielle. Eve Bazaïba, la secrétaire générale du MLC, l'a rappelé il y a quelques semaines en annonçant d'ailleurs la tenue de ce congrès, que ça devrait être sans surprise, d'autant plus que les militants et cadres du MLC ne cessent de rappeler que puisque leur leader a été acquitté dans la première affaire à la Cour pénale internationale, il ne se poserait aucun problème pour qu'il se présente à l'élection du 23 décembre prochain.
Qu'en est-il des autres candidats potentiels comme Moïse Katumbi?
Moïse Katumbi est là, sa plateforme politique a tenu son meeting il y a quelques semaines ici à Kinshasa. Ses partisans maintiennent que Moïse Katumbi sera là. Il a récemment fait une publication lui-même, l'opposant qui est en exil, pour dire qu'il sera à Kinshasa pour battre campagne, qu'il va revenir au pays. Donc Moïse est là. Parlant de Félix Tshisekedi, il est également là. Il était présent avec Vital Kamerhe, l'autre potentiel candidat. Ils étaient tous là. L'ouverture du congrès du mouvement de libération du Congo. D'ailleurs, dans la journée de jeudi, Eve Bazaïba a plaidé pour l'unité de l'opposition qui, selon le vœu des uns et des autres, devrait désigner un candidat commun à la prochaine élection présidentielle. Il est vrai qu'il y a quelques mois, le mouvement de libération du Congo, l'UDPS et l'UNC s'étaient réunis et avaient levé l'option au moment venu de présenter un candidat commun. Mais depuis, les travaux n'ont pas évolué. Deux semaines maintenant, ou un peu moins, du début du dépôt des candidatures à la présidentielle.
Et est-ce qu'on en sait plus sur les intentions déclarées ou non déclarées du président Joseph Kabila lui-même?
On n'en sait toujours pas plus, hein, le président Kabila qui a promis de se prononcer ou de s'adresser à la nation à travers le Parlement réuni en congrès avant la clôture de la session extraordinaire qui a été ouverte le mois dernier. Donc ce sera dans quelques jours que l'on saura qu'est-ce que le président compte dire. Mais les assurances par Antonio Guterres sur Afrique qui a relayé l'information ont essayé d'apaiser les uns les autres. Ce qui est vrai, c'est que la position de Joseph Kabila est très, très, très attendue. Lui qui vient de créer une grande plateforme électorale nommée Front commun pour le Congo, à la question de savoir si c'est lui qui va aller comme candidat ou si c'est quelqu'un d'autre, les propos du président de la République sont très, très attendus dans les jours qui viennent au Parlement réuni en Congrès.
Thierry Kambundi, rédacteur en chef de Top Congo FM, partenaire de VOA Afrique à Kinshasa.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Le président américain Donald Trump rencontre lundi son homologue russe Vladimir Poutine en Finlande. Cela fait longtemps qu'un leader américain dit vouloir améliorer les relations avec la Russie. Bill Gallo de la VOA revient sur les enjeux de ce sommet entre les présidents américains et russes. Son reportage est repris par Yacouba Ouedraogo.
Donald Trump séjourne en Grande-Bretagne, deuxième étape de sa tournée européenne. Son premier arrêt au sommet de l'OTAN à Bruxelles a été tendu. Le président américain a fait pression sur les pays européens pour qu'elles contribuent davantage pour leur défense. Donald Trump.
Nous avons l'OTAN, puis nous avons le Royaume-Uni, et ensuite nous avons Poutine. Et j'ai dit que Poutine est peut-être le plus simple de tous. On ne sait jamais, hein?
Ce n'est pas sûr que la rencontre Trump-Poutine donnera lieu à un accord. Mais il y a plusieurs domaines dans lesquels le président américain pense pouvoir coopérer avec la Russie, dont la Syrie, où Moscou apporte un soutien au gouvernement de Bachar al-Assad. M. Trump dit qu'il veut retirer les troupes américaines de la Syrie, mais s'inquiète de l'influence iranienne. Une autre question qui se pose, c'est de savoir si les États-Unis reconnaîtront officiellement l'annexion de la Crimée par la Russie. Donald Trump a refusé de se prononcer.
Ce qui va arriver avec la Crimée, en ce moment, je ne peux pas vous le dire, mais je ne suis pas content de la situation en Crimée.
La grande question est peut-être de savoir si Trump utilisera le sommet avec Poutine pour renverser l'alliance sécuritaire en Europe, ce qui exposerait de nombreuses petites nations européennes à une éventuelle agression russe. Jerry Retsalo est professeur à l'Université finlandaise de la Défense nationale.
Les États qui n'ont pas suffisamment la capacité de se défendre et qui dépendent donc de l'OTAN et des autres États membres pour leur défense sont vraiment inquiets et ça se comprend.
Malgré son discours sévère sur l'augmentation de la cotisation des États membres de l'OTAN, Trump n'a pas pris des mesures concrètes pour réduire le soutien américain à l'Alliance. Beaucoup d'Européens se demandent s'il ne le fera pas bientôt.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA menée par Médecins Sans Frontières en RDC.
À l'occasion de la Coupe du Monde de football, MSF a produit une vidéo de la star congolaise Chabani Nonda. Il invite ses compatriotes à se faire dépister et à ne pas stigmatiser les personnes qui vivent avec cette maladie.
Pour en parler, nous recevrons le chef du projet SIDA pour MSF en RDC et nous parlera des résultats attendus par cette campagne.
Nous écouterons aussi le témoignage du docteur Olivier Walla Walla, auteur d'une enquête sur l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-SIDA en RDC.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Cap de nouveau sur la République démocratique du Congo pour découvrir les bateaux Emmanuel. Il s'agit d'une initiative de l'entreprise Silimou qui construit sur place ses navires pour faciliter le transport entre les villes lacustres de Goma et Bukavu. Petite visite guidée avec Irénée Herman Umbu.
Les ouvriers mettent ainsi les dernières touches à ce bateau qui naviguera sur l'un des grands lacs africains, le lac Kivu, en République démocratique du Congo. Ce navire, long de 58 mètres, est le 13e d'une série de bateaux assemblés localement et baptisés Emmanuel par ses fabricants. Ponyo Baruti, contremaître de l'entreprise Silimo.
Tous les appareils sont importés, on ne les fabrique pas ici. Ils sont importés quelque part. Mais nous les installons ici, chez nous. Nous importons et nous installons.
Tous les jours, un bateau fait un aller-retour du port de Goma à Bukavu, transportant des centaines de passagers et des tonnes de marchandises sur une distance d'environ 130 km. Ces bateaux sont une bouée de sauvetage pour les personnes traversant régulièrement le lac Kivu, soit pour faire du commerce ou pour voir leurs familles et amis des deux côtés du lac. Haruna Maobi est un passager du bateau Emmanuel.
Nous n'avons pas de route au Congo. Les autorités ne s'en soucient pas. Les routes sont en mauvais état. Par exemple, le trajet de Goma à Bukavu prend au moins 5 jours par la route, mais seulement une journée en bateau. C'est pourquoi nous préférons transporter nos marchandises par ce moyen, parce que c'est plus pratique.
Ces bateaux sont alors devenus le moyen de transport le plus important entre ces deux villes lacustres de la RDC. Lwenedan Mibola est le directeur financier de l'entreprise Silimo.
Nous avons plus de 200 passagers, 300 passagers par voyage. Et les voyages allaient comme les voyages retour. Et donc nous avons essayé de peut-être d'amoindrir les taux de chômage au niveau de la population. Du fait que même à l'arrivée du bateau, il y a les effets d'entraînement qui se créent en économie. Du fait qu'il y a des petits marchés qui se créent, les cambistes sont là, il y a les mamans qui vendent ici, et donc il y a l'argent qui tourne dans toute la couche de la population.
Les bateaux Emmanuel sont une idée d'un ingénieur congolais du nom de Emmanuel Semanyenzi. Il propose 3 classes de services, un restaurant, une discothèque et quelques lits. Les navires sont assemblés ici à Goma par un groupe d'ingénieurs locaux et de personnel de soutien. Ils sont pour la plupart des artisans autodidactes formés à l'art de construire des pirogues qui ont navigué sur le lac pendant des siècles. Ils utilisent des matériaux importés d'Europe et d'Asie.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, qui me dit de dire au revoir avec beaucoup de gentillesse. Voilà, je perds même les mots. Dan Parton était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.